Chapitre 3. En sortant de Saint-Jean-du-Doigt, deux chemins conduisent au château de Kerhor, habitation d'été de la mère d'Octave. L'un a été établi à grands frais pour les voitures, l'autre s'est trouvé tout naturellement tracé par les piétons. En quittant le presbytère, Tanugi se mit à gravir le petit sentier rocailleux qui suit les sinuosités capricieuses de la côte jusqu'au château. Il était profondément agité. Son bâton s'appuyait avec un bruit sec sur les pointes vives du roc, et sa main en serrant rudement de temps à autre la poignée. À mesure que l'on s'éloigne de Saint-Jean-du-Doigt, l'aspect du sol devient monotone, âpre et nu. La végétation luxuriante de l'intérieur des terres disparaît. On n'aperçoit plus, çà et là, que quelques pousses souffreteuses qui essayent de végéter sur les flancs inféconds du roc, ou encore quelques prairies arides où l'herbe a été flétrie et brûlée par les vents d'orage. Bien que les rayons d'un soleil éclatant éclairassent ce tableau, tout cela était d'une tristesse morne et désespérée, et Tanugi en reçut une impression fâcheuse qui ajouta encore à ses cruelles préoccupations. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas devant lui, et sur la pointe extrême d'un rocher qui dominait à pic toute la grève, venait de se dresser une misérable cabane recouverte de chaume. Sur le seuil de cette cabane, un homme, assis nonchalamment, accommodait philosophiquement les guenilles dont il était vêtu. Cet homme, Tanugi le reconnut de suite. C'était celui que dans le pays on appelait Éric le Mendiant. Au cri sauvage que le vieux Breton poussa à cette vue, le mendiant releva la tête et pâlit. Par une sorte de divination magnétique, il avait pressenti quelque catastrophe et conçut un moment la pensée de se soustraire à cette visite indiscrète, mais il était déjà trop tard. Quand il voulut fuir, il se trouva en face du vieux Breton qui avançait. Il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et Éric, qui ne manquait pas d'adresse, alla résolument au-devant du danger. « Bonjour, monsieur Tanugi, dit-il en se découvrant avec humilité devant le vieux descendant du connétable. « Oh, le pauvre Éric ne vous a point oublié ce matin dans ses prières, ni vous ni votre charmante fille, et s'il plaît à Dieu de les exaucer, les bénédictions du ciel descendront sur votre demeure. « Je vous remercie, Éric, répondit Tanugi en se contenant de son mieux. Les prières des pauvres sont agréables à Dieu, et je ne doute pas qu'il exerce les vôtres, si elles sont sincères. En pouvez-vous douter ? Fit Éric avec componction. J'en ai douté quelquefois, repartit Tanugi, dont les sourcils se froncèrent malgré lui. Cependant, j'ai à vous parler, maître Éric.
À moi ?
Oui, à vous-même. J'allais sortir. Bien, vous sortirez plus tard. Mais le matin, c'est le meilleur moment de la journée. Eh bien. Je vous en tiendrai compte, objecta brusquement Tanugi, en lui jetant une pièce de monnaie que le mendiant se hâta de ramasser. Mais j'ai à vous parler, il faut que je vous parle. Le mendiant fit disparaître dans sa poche la pièce de monnaie qu'on venait de lui jeter et montra sa gamme à la Tanugi pour l'inviter à y entrer. La cabane dont il s'agit avait été construite par le mendiant lui-même, avec quelques poutres que la mer avait jetées sur la côte un jour d'orage, et de la terre qu'il avait ramassée sur la route. Les pluies et les vents des jours d'hiver l'avaient considérablement détériorée, et le toit, qui se composait de mauvaises pailles et de branches d'arbres desséchées, commençait déjà à s'effondrer. Mais cette habitation, quelque chétive qu'elle fût, suffisait à Eric, qui d'ailleurs n'y demeurait pas mal d'une manière régulière et continue. Dans les mauvais jours, il s'estimait encore heureux de trouver là un abri qu'il n'était pas toujours certain de rencontrer ailleurs. Une ou deux bottes de paille jetées dans un coin lui servaient de lit, et la cabane n'avait pas d'autre ornement, si ce n'est un mauvais escabeau boiteux que le mendiant devait à la charité des domestiques du château de Kerhor. Quand Tanguy fut entré, Eric s'allongea sur sa botte de paille, son peu bas à gauche et sa besace à droite. Il avait fait ses réflexions. Il avait deviné tout de suite ce dont il s'agissait. Il était décidé à affronter jusqu'au bout la colère du vieux Breton. Bon, il n'ignorait pas que Tanguy était violent, emporté, et qu'il ne s'arrêterait peut-être pas devant les conséquences extrêmes de son emportement, mais le mendiant se sentait fort et, au surplus, il n'était pas fâché que le hasard lui offrit l'occasion d'avoir une explication décisive avec le père de Marguerite. Il n'éprouva donc aucune émotion en voyant entrer ce dernier, et un sourire presque ironique vint même effleurer ses lèvres lorsqu'il s'aperçut que Tanguy parcourait silencieusement la cabane, sans savoir probablement de quelle façon entamer l'entretien. Eric eut pitié de lui. Il alla au-devant de ses désirs et commença. « Vous avez désiré me parler, monsieur Tanguy, dit-il. Eh bien, me voilà prêt à vous écouter et à vous rendre tous les services qu'un pauvre mendiant comme moi peut rendre. Je connais bien du monde du pays, et d'ailleurs, sans me vanter, et si c'est pour avoir des renseignements sur quelques bonnes terres à acheter, je suis votre homme. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et de quoi donc ? Demanda le mendiant avec une naïveté feinte. Car il s'agit de vous et de vous seul, poursuivit Tanguy, dont les joues se colorèrent vivement, et qui frappa le sol de son énorme peu bas. Eric le regardait stupidement, et comme s'il eût vainement cherché à comprendre le sens de ses paroles. De moi ? Répondit-il avec un étonnement admirablement joué. Moi, monsieur Tanguy, mais je suis un pauvre mendiant qui doit son existence à la charité des habitants de la côte. Je serais trop heureux de pouvoir vous être utile à quelque chose, et je le répète, pour cela je suis votre homme. Soit, dit Tanguy en réprimant un mouvement d'impatience, vous vous obstinez à ne pas comprendre le sens très clair de mes paroles, eh bien je parlerai avec encore plus de clarté. Écoutez-moi donc, maître mendiant, et retenez bien surtout ce que je vais vous dire. Car, je vous l'assure, il pourrait vous en coûter cher de l'oublier. » En parlant ainsi, le vieux Breton serrait son peu bas dans sa main crispée. Ses sourcils se fronçaient et ses regards lançaient d'ardentes étincelles. Eric, cependant, suivait chacun de ses mouvements avec une impassibilité vraiment remarquable. Tanguy reprit. « Il m'est revenu, dit-il d'une voix ferme et brève, que ne vous vous contentiez pas dans vos courses de vagabonde d'implorer la charité publique, et que vous ajoutiez encore à ce métier celui d'espion et de calomniateur. »« Moi ? » fit Eric, qui se sentit pâlir malgré lui. « Vous ! » poursuivit Tanguy. « Vous, oui, vous, Eric le mendiant. » Est-ce qu'il y a peut-être de plus lâche et de plus infâme dans ce rôle que vous jouez ? C'est que vous vous gardez bien de vous en prendre à ceux qui pourraient vous faire taire en vous châtiant, ou se venger en vous tuant, et que vous vous attaquez de préférence à des enfants qui n'ont d'autre défense que leurs larmes ou d'autre refuge que leur silence. » La physionomie de Tanguy avait revêtu, pendant qu'il parlait, un caractère particulier d'ardente colère qui parut inquiétant à Eric. Toutefois, il surmonta cette inquiétude passagère essaya un sourire modeste. « Bon, vous a trompé sur mon compte, monsieur Danigy, répondit-il. Je vais et viens à travers le pays, vivrai au monde de tous, et l'idée ne m'est jamais venue de dire du mal de ceux qui me donnent. Sans doute j'apprends et je vois beaucoup de choses en voyageant ainsi. Et quand je rentre le soir dans ma pauvre cabane, j'ai souvent la mémoire bien plus remplie que ma besace. Mais je prends le bon Dieu à témoin que jamais il ne m'est arrivé de raconter ce que j'apprenais ou ce que je voyais. Bon, cependant, on me l'a dit, objecta Tanguy. Bon, on vous aura trompé, repartit le mendiant, qui reprenait peu à peu toute son assurance. Et voyez-vous, ajouta-t-il avec une sorte de complaisance nonchalante, il y en a qui m'aiment au pays et il y en a qui m'aiment pas. Les uns disent du bien de moi, les autres disent du mal. C'est une chose qu'on ne peut pas empêcher, monsieur Tanguy. Et quand on a la conscience honnête et qu'on croit n'avoir jamais rien à se reprocher, on va toujours son chemin sans s'inquiéter des mauvais gens et des mauvais propos. Tanguy s'arrêta à deux pas d'Eric. Les paroles du mendiant ne l'avaient pas calmé. Ses sourcils s'étaient rapprochés, ses dents mordaient ses lèvres avec une fureur mal contenue. « C'est bien, » dit-il d'un accent impérieux et comme s'il eût voulu imposer silence au mendiant. « C'est bien, bon, tu n'es pas coupable. Tu n'as rien dit, on m'a trompé. Puisque tu l'assures, je te crois. Je ne veux plus parler de ce qui est arrivé, je veux seulement te donner un avertissement pour l'avenir. » Il est possible que quelqu'un te paye pour venir espionner ce qui se passe chez moi. Mais c'est une chose que je ne puis souffrir davantage et que j'ai la ferme intention d'empêcher. Et comment donc cela ? Interrompit Eric avec un sourire presque moqueur. Bien en te défendant d'approcher de la ferme, répondit Tanguy. Eric haussa les épaules. Est-ce que ça se peut, ça ? Dit-il en jouant avec son bâton. « Je vais à la mer tous les jours. Il n'y a que le bon Dieu qui puisse m'empêcher d'y aller. » « C'est ce que nous verrons, » dit Tanguy, qui s'enivrait peu à peu de sa propre colère. « Oh, c'est tout vu. Tu viendras ? Oui, j'irai. Même si je te le défends. Oh, surtout si vous me le défendez. » « Misérable !» s'écria Tanguy. Et sa figure prit aussitôt une expression terrible. Ses yeux s'injectèrent de sang et il leva son bâton noueux sur la tête du mendiant. Ce dernier n'avait pas bougé. Seulement, sa main s'était doucement glissée dans la besace qui gisait à ses côtés. Et il en retira un instant après une sorte de mauvais pistolet de poche qu'il y tenait constamment caché. Cependant, la colère de Tanguy semblait s'être éteinte aussi vite qu'elle s'était allumée, et son arme demeura un moment suspendue sur la tête d'Eric sans qu'il pût se résoudre à la laisser tomber. Mais lorsqu'il aperçut le mouvement du mendiant, quand il vit que sa main s'était armée tout à coup du pistolet qu'il venait de retirer de sa besace, et qu'il paraissait disposé à en faire usage, sa colère se ranima instantanément, ses mains se crispèrent et d'un coup de peu-bas vigoureusement appliqué, il fit tomber à ses pieds le pistolet du mendiant. Eric fut comme abasourdi de cette soudaine attaque, il se releva d'un bond et se jeta avidement sur le pistolet qui venait de lui échapper. Mais déjà Tanguy avait eu le temps de passer le pied sur l'arme et son bâton s'était aussitôt relevé. Eric le regarda stupidement, ne sachant pas trop s'il devait reculer ou avancer. « Vous êtes un misérable, maître Eric, » dit enfin le vieux Breton. Mais cette fois, d'une voix plus calme, « et si je n'avais écouté que ma colère, j'aurais vengé d'un seul coup tous les honnêtes gens de la commune que vous avez calomniés comme ma pauvre Margate. Mais vous ne perdrez rien pour attendre, je vous le prédis. Si vous continuez à vous faire ainsi le ligne instrument des vengeances du château. Et comme Eric, muet et immobile, ne quittait pas des yeux le pistolet sur lequel Tanguy avait mis le pied. « Prenez-y garde !» poursuivit ce dernier en lançant d'un coupe-barre l'arme dehors la cabane. « Prenez-y garde, maître Eric. Vous jouez là un mi-volgeux et qui vous conduira peut-être plus loin que vous ne voudriez aller. C'est tout ce que je puis vous dire aujourd'hui. » Mais nous pourrons renouer cette conversation si le désir vous prend jamais de revenir rôder autour de la ferme. » En parlant ainsi, Tanguy gagna la porte et disparut bientôt dans le sentier de Kenroor. Eric l'avait suivi jusque sur le seuil. Quand il l'eut vu disparaître, il rentra dans la cabane, passa tranquillement sa besace à son cou et releva son bâton. « Si vous le voulez bien, monsieur Tanguy, » se dit-il alors, et tout en ajustant ses haillons, « c'est ce soir que nous reprendrons la conversation. » Et il s'éloigna rapidement, prenant la direction de Saint-Jean-du-Doigt. Vers la fin du jour, Marguerite se trouvait dans sa chambre, et elle songeait tristement à tous les événements qui s'étaient succédés depuis quelques heures seulement. Marguerite savait les projets de départ de son père, et son cœur se brisait quand elle venait à penser que sous peu de jours, que le lendemain peut-être, il lui faudrait quitter ce pays où elle se sentait retenue par des liens mystérieux et irrésistibles. Quand cette amère pensée s'emparait de son esprit, l'image sombre et désespérée d'Octave passait devant elle, et ses yeux s'emplissaient de larmes. Marguerite aimait Octave d'une sainte et pure amitié, mais l'amitié d'une enfant naïve comme elle aboutit souvent à l'amour. Depuis quelque temps surtout, la pauvre Marguerite éprouvait à l'approche d'Octave de singuliers symptômes qui jetaient bien souvent le trouble et l'effroi dans son esprit. Son cœur battait plus vite dans sa poitrine, le sang circulait plus ardent dans ses veines, tout son corps tressaillait d'une joie sans seconde quand par hasard sa main rencontrait la sienne. La nuit, Marguerite avait des insomnies étranges. Au pâle rayon de la lune, il lui semblait voir les anges, ses sœurs s'asseoir à son chevet et la contempler tristement. Elle s'effrayait malgré elle, et par une contradiction qu'elle ne pouvait pas comprendre, elle aimait ce trouble, cette frayeur, cette vague inquiétude dont son âme était pleine. Qu'allait-elle devenir quand il lui faudrait s'éloigner, quand il lui faudrait quitter le bourg pour n'y plus revenir, quand il lui faudrait renoncer à revoir jamais Octave? Marguerite ne se sentait pas la force de lutter contre la volonté de son père. Elle n'en avait ni le courage, ni la pensée. Elle était décidée d'avance à faire le sacrifice de son amour, à mourir lentement plutôt que d'attrister par un refus la vieillesse de son père. Et cependant, combien de larmes, combien de tristesse, de désespoir! La vieille Jeanne, la servante de l'abbé Kersin, n'avait pas quitté Marguerite. Il se faisait tard, cependant, et c'était l'heure du repas. La vieille Jeanne se mit en devoir d'aider la fille de Tanguy à se dépouiller de ses vêtements du jour. Ses soins arrachèrent pour un moment Marguerite à ses tristes préoccupations. La femme redevenait enfant pour admirer chaque parure qu'on lui ôtait, et elle ne se lassait de regarder sa petite glace comme pour s'assurer qu'elle restait jolie. Tantôt, c'était son collier de perles blanches qu'on lui enlevait, et elle redressait avec fierté son beau col de cygne, aussi blanc que la neige. Une autre fois, c'était son surtout de drap piqué, que la vieille allait déposer dans un grand bahut sculpté, et son regard caressait avec amour les contours délicieux de sa taille. Mais ce fut surtout lorsque Jeanne détacha le nœud qui retenait ses cheveux et qu'elle les sentit retomber en longues boucles sur ses épaules et son sein nu, qu'elle se prit à rougir, croisant ses deux bras sur sa gorge naissante par un geste plein de pudeur. Elle était si belle ainsi. Il y avait dans sa pose tant de chasteté et de beauté. Son regard à demi-voilé étincelait de tant d'amour contenu et de tant de pudeur que la vieille Jeanne s'arrêta un instant pour la contempler et l'admirer. Elle était belle et sainte et pure. Le vent des passions terrestres n'avait point encore soufflé sur cette frêle enveloppe. Son cœur était aussi pur que son âme était aussi blanche qu'au sortir des mains de Dieu. Quand Marguerite vit que Jeanne restait debout devant elle, plongée dans une admiration muette, elle jeta un petit rire vif et doux comme un cri d'oiseau, et elle alla elle-même prendre un long vêtement de toile blanche, puis s'étant assurée que toute aide étrangère lui était désormais inutile, elle congédia Jeanne et demeura seule. Alors elle se reprit encore à songer à son départ, essaya de mettre en ordre tous les objets qu'elle allait emporter, et comme l'horloge de l'âmeneur sonnait 11 heures, elle alla s'agenouiller près de son lit et commença sa prière, les mains jointes, les yeux levés au ciel. Mais à peine eut-elle commencé, qu'une émotion fébrile fit trembler ses mains. Elle baissa les yeux et, s'étant détournée avec vivacité, elle aperçut un homme debout au milieu de la chambre. « Octave !» s'écria-t-elle en devenant pâle comme une morte. « Octave !»« Marguerite !» répondit le jeune homme d'un ton suppliant. « Vous ici ?» poursuivit Marguerite. « Vous, oh mon Dieu, mais quelle a été votre pensée, dites ? Qui vous y a conduit ? Comment êtes-vous venu ? Dites, mais répondez. » Mais comme elle ne se sentit pas la force d'en dire davantage, elle laissa retomber sa tête dans ses mains et se prit à sangloter. Le jeune homme s'élança alors vers elle, et avant qu'elle eût eu le temps de s'éloigner, il lui prit les deux mains dans les siennes. « Marguerite, dit-il d'une voix pleine de larmes, ma jolie Marguerite, ne pleurez pas ainsi. Écoutez-moi, vous allez partir. »« Partir ?» fit Marguerite en relevant la tête. « Demain, m'a-t-on dit, demain, il faudra me séparer de vous pour toujours. Oh, je n'ai pas pu accepter cette pensée cruelle. J'ai voulu vous revoir encore une fois, vous dire un dernier adieu. » « Je suis venu. Marguerite, auriez-vous la cruauté de me dire que j'ai mal fait ?»« Eh bien, répondit Marguerite, vous êtes venu, Octave, vous m'avez vu, et maintenant vous pouvez partir. » Et comme elle se dirigeait vers la porte de la chambre qu'elle se disposait à ouvrir, Octave l'arrêta. « Y pensez-vous ? » lui dit-il, « je ne puis pas sortir par cette porte. Je rencontrerai quelqu'un en ce moment, et vous seriez perdu. » Marguerite courut alors vers la fenêtre qu'elle ouvrit. La campagne était calme, le ciel chargé de nuages. Personne ne veillait alentour, mais il y avait 15 pieds d'élévation, et l'on pouvait se tuer en tombant. Elle revint s'asseoir, triste et rêveuse, auprès de son lit. Pendant quelques secondes, un silence embarrassant régna dans la chambre. Octave restait debout et regardait Marguerite accablée, les yeux fixés vers le parquet. Dans un moment même, il vit des larmes couler silencieusement le long de ses joues. Un profond sentiment de pitié s'empara de lui. Il comprit que sa position devenait odieuse. C'était la première fois qu'il faisait trembler cet enfant, et il se reprocha sa lâcheté. Il alla donc se mettre à genoux à deux pas d'elle, et, joignant les mains à son tour, « Marguerite, dit-il, je vous aime. Je vous aime de tout ce que Dieu a mis en moi d'amour et de passion. Je vous aime comme un insensé. Voilà ma faute. Ne me pardonnerez-vous pas? Oh, ne pleurez pas ainsi. Je puis sortir. Cette fenêtre n'est pas si élevée qu'on ne puisse s'échapper par cette issue. Je partirai. Et qu'importe après tout que je meure si vous êtes sauvée. Vous, vous, Marguerite, ma Marguerite bien-aimée. » Marguerite le regarda à travers ses larmes avec une mélancolie profonde. « Octave, répondit-elle, vous m'aimez, dites-vous. J'ai bien besoin de vous croire dans ce moment surtout. » Et elle prit un ton grave et une pose sérieuse et réfléchie. « Octave, poursuivit-elle, vous ne pouvez vous retirer par cette porte, car, ainsi que vous le disiez, on vous rencontrerait et je serais perdu. Cette fenêtre ne vous offrirait pas un moyen meilleur de retraite, et, quoique vous me le proposiez, je serais aussi généreuse que vous, je n'accepterais pas. Il faut donc que vous restiez ici jusqu'au jour. » Mais, ajouta-t-elle en lui désignant un des coins de la chambre, j'attends de votre loyauté de ne point franchir la distance que vous allez mettre entre nous. C'étaient deux enfants, l'un âgé de 20 ans, l'autre de 16. Âge heureux où l'on se souvient encore de sa première pureté, où l'âme n'a pas perdu toute sa naïveté et sa candeur. Âge terrible aussi, où les premières passions, les plus doux sentiments, les plus irrésistibles penchants s'éveillent au cœur de l'homme. Octave était un bon et simple jeune homme qui n'avait pris aucun des travers du milieu dans lequel il avait vécu. Fils unique, dernier rejeton d'une famille aristocratique, il avait été entouré dès son enfance de tous les soins, de toutes les fantaisies qui flatte l'esprit, mais cependant son cœur ni son esprit n'en auraient été gâtés. Il s'était développé au milieu de ce monde de luxe, sans se laisser entraîner sur la pente si douce des plaisirs faciles que le monde tolère, et à 20 ans il avait encore sa première pureté, et aucune séduction n'en avait entraîné au-delà des limites sacrées de l'honneur et du devoir. Octave avait aimé Marguerite dès le premier jour. Il avait bien senti le trouble pénétrer dans son cœur avec ce nouveau sentiment. 1000 désirs impatients avaient 20 fois sollicité sa jeunesse, mais la passion ne l'avait pas emporté jusqu'à l'aveuglement, et jamais la pensée ne lui était venue de ternir la chasteté de son amour par une trop vive ardeur de la possession. Pour Marguerite, nous l'avons dit, les choses s'étaient passées autrement. Pour elle, en effet, la vie n'avait pas toujours été eu des joies sans amertume. Privée, dès sa plus tendre jeunesse, des caresses d'une mère chérie, elle avait vécu un peu isolée, quelquefois même en proie à des découragements indéfinissables. L'amour de son père ne lui avait pas toujours suffi. Puis un soir, elle avait vu Octave et elle l'avait aimé. Cela s'était passé aussi simplement que nous le racontons. Elle crut lire dans les yeux du jeune homme qui se rapprochait d'elle une pitié tendre qui s'adressait à sa souffrance cachée, une promesse de bonheur qu'on lui envoyait pour l'aider à supporter ses douleurs secrètes, et elle, la pauvre enfant naïve, s'était laissé prendre à la joie, à l'espérance, à la vie, en rencontrant cette chaste sympathie. Il y avait dans le cœur d'Octave trop de pur amour pour que l'idée lui vînt de faire rougir Marguerite. Il se serait tué plutôt. Et cependant, du coin où l'amoureuse jeune fille l'avait relégué, il jetait un coup d'œil avide sur ses charmes divins, qu'un voile léger lui dérobait à peine. Il ne l'avait point encore vue ainsi. Et son regard s'allumait, sa poitrine était en feu. 20 fois même, par un moment irréfléchi, il fut sur le point de se précipiter vers elle et de la prendre dans ses bras. Mais un geste de Marguerite, geste moitié impératif, moitié suppliant, venait l'arrêter et le retenir à sa place. Ils s'aimaient tous deux, et c'est ce qui les sauva. Pourtant, dans un de ces moments où le sang refluait avec tant d'abondance vers la poitrine d'Octave, où le feu circulait ardent dans ses veines, où 1000 désirs mal combattus l'emportaient malgré lui vers une solution dont il rougit de sang-froid, la vertu dont il avait fait preuve jusqu'alors fut vaincue. Et il marcha, Marguerite, les cheveux en désordre et la tête perdue. En le voyant ainsi venir à elle, Marguerite poussa un cri de détresse et croisa ses deux bras sur sa poitrine. « Octave ! » cria-t-elle d'une voix désespérée, « vous mentez à votre parole ?» Marguerite, essaya de répondre Octave, qui déjà d'un geste puissant saisissait ses deux mains effrayées. « Oh mon Dieu !» dit la jeune fille accablée. « Marguerite, Marguerite, tais-toi !» poursuivit Octave, « tais-toi, je t'aime. Tes préjugés de famille nous séparent aujourd'hui, mais tu peux être à moi. Devant Dieu, tu seras ma femme, ma Marguerite bien-aimée. Oh, je te le jure, enfant cher, mon plus saint désir, ma plus noble ambition est de consacrer ma vie à ton bonheur, et quoi qu'il arrive, mes jours sont désormais liés au tien, Marguerite. Laissez-moi, dit la fille de Tanguy d'une voix mourante. Jamais. Octave, Octave, vous êtes mon plus implacable ennemi. Mais Octave n'écoutait plus, il n'écoutait plus rien. Un instant encore et Marguerite était perdue. Elle fit un effort désespéré, la honte et la pudeur lui donnèrent des forces surhumaines, et dégageant ses mains de l'étreinte passionnée de son amant, elle courut effarée vers la fenêtre qu'elle se hâta d'ouvrir. « Si vous faites un pas de plus, » dit-elle en indiquant cette nouvelle issue qu'elle venait de se frayer, « Octave, je me tue !» Mais Octave n'avait nulle envie de la suivre. Déjà, son sang s'était refroidi, et il avait honte du mouvement qu'il avait un moment emporté. D'ailleurs, la porte venait de s'ouvrir, et la silhouette du père de Marguerite s'y dressait maintenant, grave et sévère. « Octave, » dit le vieillard d'une voix lente et sombre, « je vous ai estimé jusqu'aujourd'hui à l'égal d'un gentilhomme et d'un homme de cœur. Mais l'action que vous venez de commettre est une lâcheté, je vous méprise. »« Monsieur, » balbutia Octave, « une lâcheté, » répéta Tanguy avec fermeté. « Une pauvre fille sans défense, une enfant innocente et pure, ne pas se contenter de la séduction du regard et de la parole, pousser l'infamie jusqu'à la violence, ah, c'en est trop, monsieur, et tout autre que moi, peut-être, vous eût fait payer cher une semblable conduite. »« Mais je l'aime, » interrompit Octave, « mon seul désir est de faire de Marguerite ma femme devant Dieu et devant les hommes. » Tanguy haussa les épaules et sourit. « Que vous l'aimez, monsieur, répondit-il, c'est possible. Mais que vous ayez l'intention de l'épouser, c'est faux. »« Mais pourtant, mais c'est faux, vous dis-je, car vous savez bien comme moi que madame la comtesse de Kerouard ne consentirait jamais à une pareille union. »« Et cependant, poursuivit Tanguy, toujours avec la même gravité triste, il fut un temps où les Tanguy eussent peut-être hésité aussi à contracter une alliance avec les Kenor. Mes ancêtres m'ont légué à moi aussi, monsieur le comte, un blason que je n'étale pas aux yeux du monde, mais dont je suis fier et dont je ne permettrai à personne, entendez-vous, de le souffleter impunément. Et comme Octave demeurait interdit et muet, le vieux Breton continua. « C'est le malheur des temps, monsieur le comte, dit-il. Les jeunes gens d'aujourd'hui, qui à l'âge de 20 ans ne croient plus à l'amour, à la fidélité, à la loyauté, à l'honneur, s'arrogent le droit de porter insolemment le trouble et la honte dans les familles. Que leur importe à eux la vieillesse du père ou la pureté candide de la fille? Ils vont droit à leur chemin, mais sans s'inquiéter de ce qu'ils laissent derrière. Mais il peut se trouver cependant, et j'en suis d'une preuve vivante, monsieur le comte, un homme, un vieillard, que de pareilles actions révoltent, qui a encore dans les veines un sang jeune et vigoureux, et qui, au besoin, ne l'oubliez pas, serait vengé par l'épée et d'une main sûre l'outrage fait à son honneur. Allez donc, monsieur le comte, demain, grâce à vous, ma fille et moi nous quitterons le pays. Et je vous le dis avant de vous quitter, je vous le dis sans colère et sans forfanterie. Je prie Dieu qu'il vous éloigne à tout jamais de ma demeure. » Octave avait tout écouté sans répondre. Toutes ces insultes, il les avait dévorées sans mot dire. C'était le père de Marguerite qui parlait, et il faisait sans hésiter le sacrifice de sa vanité à son amour. Mais quand le vieux Tanguy eut cessé de parler, il releva la tête et fit quelques pas vers lui. « Monsieur, lui dit-il d'une voix ferme, les apparences accusent aujourd'hui la sincérité de mon amour, et ce n'est ici ni le lieu ni le moment de me disculper. Pour Marguerite, pour moi, pour vous-même, je me tairai. Je n'ai qu'un mot à dire, cependant, et ce mot renfermera toute l'explication de ma conduite. J'aime Marguerite, et je jure Dieu qu'elle sera ma femme. » Puis se tournant alors vers la jeune femme, qui se tenait plus morte que vive, adossée à la fenêtre ouverte, « Adieu, lui dit-il. » Mais cette fois la voix pleine de larmes et le cœur brisé. « Adieu, Marguerite. Oh, ne m'oubliez pas trop vite, et un jour, vous saurez combien je vous aimais. » Et sans attendre de réponse, il franchit le seuil de la porte, sans même oser regarder en arrière. Cependant, Marguerite était tombée à genoux, la tête dans ses mains. Elle sanglotait. Le lendemain, la ferme fut vendue à la hâte, et le père Tanguy et sa fille quittèrent précipitamment le pays sans que l'on pût dire quelle direction ils avaient prise. Chapitre 5. 2 années s'étaient écoulées depuis les événements que nous avons racontés au chapitre précédent. Si le lecteur veut bien nous suivre, nous allons le mener vers une partie de la Bretagne en l'assurant d'avance qu'il n'aura rien perdu au change. La Bretagne est assez riche pour fournir un cadre heureux à tout ce que la vie habituelle peut offrir de scènes saisissantes et dramatiques. Il faisait nuit déjà depuis quelques heures. On était au mois de septembre. Des nuages noirs et lourds couraient dans le ciel. Le vent soufflait âpre et froid sur la côte. 2 cavaliers venaient de sortir de Brest et, se laissant aller au pas tranquille de leur monture, ils avaient pris le chemin qui mène au Conquet en côtoyant la Rade. L'un pouvait avoir 28 ans, l'autre en avait à peine 22. Le plus âgé était un grand gaillard aux allures vives et décidées, qui portait hardiment son chapeau de feutre sur l'oreille et dont le visage rayonnait de gaieté et de bonne humeur. Le plus jeune, au contraire, était petit, quoique bien pris dans sa taille. Une extrême pâleur était répandue sur ses joues, et une certaine teinte de mélancolie attristait ses traits. Ils cheminaient l'un à côté de l'autre sans échanger la moindre parole. Du reste, la route était déserte, Quelques gouttes de pluie commençaient à tomber, et l'on entendait du sentier ce bruit tourmenté qui s'élève des flots que le flux et le reflux agitent incessamment. La situation prêtait peu à la conversation. L'aspect de la rade était sans charme, et avec le vent et la pluie, 5 lieues à faire n'était certainement pas chose bien attrayante. Toutefois, le plus âgé des deux voyageurs sembla penser autrement, car après quelques minutes de silence, il se tourna brusquement vers son compagnon et arrêta son cheval en poussant un éclat de rire qu'aucun écho ne lui renvoya. « Ah, ça, mon cher Octave, » dit-il avec un accent de brusquerie de bon aloi, « je ne vous trouve guère charmant aujourd'hui. Et si j'avais prévu le cas de vous deviendriez aussi monotone, me serais bien gardé de quitter notre chère capitale pour vous suivre dans ce pays qui, s'il ne manque pas de pittoresque, manque essentiellement de lune et de soleil. » « Vous aimez donc bien le soleil ?» repartit ironiquement son compagnon. « Vrai Dieu, mon ami !» s'écria le plus âgé d'un certain ton enthousiaste qui avait sa séduction. « J'ai vécu 10 ans de mes plus belles années dans un affreux taudis de l'une des plus horribles rues de Paris. L'escalier était étroit et sombre, la chambre ornée de ses 4 murs, et je montais 128 marches pour y atteindre, et jamais, durant les 10 années de labeur opiniâtre et de luttes incessantes, je n'ai eu une heure de lassitude ou une seconde de découragement. « Et pourquoi cela ?» objecta Octave. « Ah, dame !» poursuivit son compagnon. « C'est que ma chambre, ou ma mansarde, si vous l'aimez mieux, avait 2 grandes fenêtres ouvrant sur le ciel, et recevait de première main les plus purs et les plus riants rayons du soleil. Le matin, midi, le soir, du soleil. C'est-à-dire, mon cher ami, de la gaieté, de la confiance en Dieu, de l'indépendance, de l'amour, ces 1000 sentiments bénis qui font de la vie un éternel enchantement. Mais vous n'avez pas l'air médecin, Horace, objecta Octave. Pourquoi donc? À votre enthousiasme. « Ah oui, ça, bon, moi, j'avoue mon faible. J'aime la vie, moi, je n'ai jamais, comme vous, nourri d'affreuses et froides pensées de suicide. Le hasard m'a ramassé un jour dans les rues de Paris, où je peignais des enseignes. J'avais 14 ans. Je ne connaissais ni mon père ni ma mère, mais j'étais intelligent. Dieu merci. » Et je portais dans mon cœur cette fleur d'éternelle jeunesse que rien au monde n'a encore pu flétrir. Ah, Octave, je voudrais bien vous donner quelquefois un peu de ma gaieté, de mon insouciance. Votre existence n'a pas été secouée par les mêmes douleurs, répondit Octave avec un soupir triste. Oui, la mort de votre mère. Oui, oh, et plus que cela peut-être. La perte d'un amour dont j'avais fait mon seul rêve. Oui, vous m'avez conté cela, mais enfin, on se console. Le croyez-vous? Bon, l'on sait rien, mais on se distrait, on travaille, on voyage. Et que faisons-nous donc? Et par Dieu, vous avez raison. Nous voyageons, nous allons pour le moment. « Mais où diable m'avez-vous dit que nous allions ?»« Au Conquet. »« Non, à l'abbaye de Saint-Mathieu, un monastère antique planté audacieusement sur un promontoire battu par les flots et suspendu comme un vaisseau de pierre entre le ciel et l'ombre. Ça doit être superbe. »« Cependant, vous maugréez. »« Oh oui, aussi. Avouez que je n'ai pas tout à fait tort. » Voilà bientôt 8 jours que nous apparentons la Bretagne, un délicieux pays, ma foi, tantôt à pied, tantôt à cheval. Et depuis 8 jours, nous n'avons pas couru le moindre danger et rencontré le moindre voleur. Mais vous vous croyez toujours en Italie, Le fait est qu'en Italie, nous aurions eu le temps d'être dévalisés 20 fois. Grand merci. Bon imprévu, cher ami, n'est-ce pas la vie? Je donnerais, moi, la moitié de mon existence pour ignorer ce que je ferais durant l'autre moitié. Tout en devisant ainsi, les deux amis avaient laissé bien loin derrière eux la ville de Brest et les petites habitations qui s'échelonnent le long de la côte. À mesure qu'ils avançaient, le chemin devenait plus difficile, plus montueux. Les chevaux avaient bien pris la peine à suivre le sentier que les pluies récentes avaient détrempé. D'ailleurs, la route avait cessé de côtoyer la rade, et maintenant il s'enfonçait à chaque pas davantage dans les terres. Octave était retombé dans sa mélancolie ordinaire. Horace, désespérant de l'en arracher, se contentait de le suivre sans rien dire. Le silence s'était donc rétabli, et un incident seul pouvait désormais le rompre. Cependant, Octave s'arrêta tout à coup et se tourna vers son compagnon avec une certaine vivacité qui ne lui était pas habituelle. Mais on se distrait, on travaille, avez-vous dit, s'écria-t-il brusquement. Mais vous croyez donc, vous, Horace, que l'on puisse oublier? Oh, je le crois, répondit Horace, un peu surpris de cette boutade inattendue. Ah, c'est que vous n'avez jamais aimé. Ah non, jamais. Eh bien, moi, Horace, moi, j'avais 20 ans alors, c'est-à-dire que je n'avais pas encore souffert. La vie ouvrait devant moi ses deux portes dorées et mon cœur, que rien n'avait blessé, acceptait sans défiance les premières promesses de bonheur. Avoir 20 ans et se croire aimé d'une femme que l'on aime, Horace, le ciel n'a pas de plus douce ni de plus pure joie. Ce que j'avais fait de rêves insensés, Dieu seul le sait. Et un seul jour, une heure, a brisé tout cet avenir de bonheur. Voilà de ces malheurs qu'on ne peut oublier, mon ami. Pauvre Octave. Ah, oh, vous qui êtes médecin, Horace. Vous qui, grâce à un travail surhumain, êtes parvenu à conquérir à 28 ans une des places les plus illustres parmi les célébrités européennes. Dites-moi donc pourquoi l'on ne meurt pas de douleur, ou plutôt ce que c'est que cette douleur qui vous tue peu à peu, lentement, longuement. Dites-moi ce que c'est que la vie, l'amour, ce que c'est que la mort. Ben, ceci ne rentre pas dans la chirurgie, mon ami, objecta Horace. Ah, tenez, poursuivit Octave avec un geste de découragement. L'amour est un sentiment triste. J'ai songé bien souvent à me tuer depuis que j'ai perdu Marguerite. Où est-elle? Qu'est-elle devenue? Est-elle morte, elle, morte de honte et de désespoir? Dois-je la rencontrer un jour ou faut-il que j'use ma vie ainsi heure par heure dans cet isolement qui m'épuise, m'absorbe et m'enlève à chaque instant un peu de ma force et de mon courage? Horace ne répondit pas. Depuis quelques minutes, un bruit de pas s'était fait entendre derrière eux, et cet incident mit fin momentanément à la conversation. D'ailleurs, ni Octave ni Horace n'étaient bien certains du chemin qu'ils suivaient en ce moment, et ils n'étaient pas fâchés l'un et l'autre d'avoir à ce sujet quelques renseignements positifs. Horace arrêta son cheval. Par imitation, Octave en fit autant. Quelques secondes s'étaient à peine écoulées qu'ils virent poindre derrière eux, au bout d'un sentier, la silhouette d'un homme qui portait le costume du pays. Cet homme marchait d'un bon pas et s'appuyait sur un bâton ferré. La lune était cachée derrière les nuages noirs que le vent chassait de la côte, mais les pâles rayons qu'elle laissait glisser de temps à autre suffisait à détailler les parties importantes de son costume. Il portait le chapeau aux larges bords, l'habit de drap brun des hommes du canton de Saint-Égonnec et des guêtres de cuir qui lui montaient à mi-jambe. Cet homme paraissait être encore dans toute la force de l'âge. Comme les deux cavaliers s'étaient arrêtés au milieu du sentier, il les eut bientôt rejoints et passa près d'eux sans ralentir le pas. Seulement, et selon l'antique et solennelle coutume du pays breton, en passant près d'eux, il porta à la main son chapeau et salua. Les deux jeunes gens lui rendirent respectueusement son salut, et Horace se mit aussitôt en devoir de l'interpeller. « Pardon, monsieur, lui dit-il, pardon de vous arrêter, mais mon ami et moi, nous nous sommes engagés dans ce sentier un peu imprudemment, et nous ne savons vraiment pas s'il nous conduira où nous désirons aller. »« Et où désirez-vous aller ?» demanda le breton en s'appuyant sur son pèse-bas, peu bas, au milieu du sentier. « Au Conquet. »« Ah, bien, ce chemin y mène tout droit, monsieur. » Et combien avons-nous encore de lieux pour y arriver ? Oh, trois ou plus, répondit le breton, qui, sans attendre une autre question, salua de nouveau les deux cavaliers et reprit sa route du même pas rapide et pressé. C'est égal, murmura Horace, dès que le breton eut pris une certaine avance. Les habitants de ce pays sont d'étranges gens. N'avez-vous pas remarqué, Octave, l'énorme ceinture de cuir que celui-ci portait autour des reins ? Oui, en effet, dit Octave. Diable d'idée de rentrer chez soi à pareille heure de la nuit, quand on porte de pareilles sommes. Bon, la côte est sûre, oh, que sait-on ? Les Bretons ne volent pas. Non, mais les forçats. Il y eut un silence. Silence plein d'angoisse, car tous les deux avaient cru entendre les arbustes du sentier tressaillir sous une pression qui n'était pas celle du vent. N'avez-vous pas entendu ? Demanda presque aussitôt Horace. Aussi fait, répondit Octave. Il y avait quelqu'un dans le champ voisin. Oui, peut-être bien. Oh, je vous avoue que je ne serais pas très rassuré à la place de votre breton. Mais vous ne rêvez qu'aventure, mon ami. Oh, vous avez raison, sans doute, Octave, mais si vous m'en croyez, nous presserons le pas. Pour fuir, dit Octave en riant. « Non, pour escorter ce brave homme, » répondit Horace. « Et tenez, » ajouta-t-il presque immédiatement, « voyez si mes pressentiments me trompaient. » Les deux cavaliers étaient arrivés à ce moment dans un endroit élevé d'où le voyageur domine les lieux environnants. Octave avait arrêté une seconde fois son cheval et il tourna les regards vers l'endroit que lui désignait son compagnon. À une distance d'environ 200 pas, trois hommes traversaient un champ de blé noir en courant et se dirigeaient en toute hâte vers le sentier dans lequel le breton venait de s'engager. « Mais vous avez raison, » dit Octave. « En avant donc, » répondit Horace, « et Dieu veuille que nous arrivions à temps. » Les deux jeunes gens lancèrent aussitôt leur cheval, mais à peine eurent-ils franchi une certaine distance que le bruit d'une lutte, suivi peu après d'un cri épouvantable, s'éleva du milieu de la nuit et vint les glacer d'effroi. « Un crime ? » s'écria Octave. « Un assassinat ? » ajouta Horace. Et ils reprirent leur course plus rapide, enfonçant leurs épaules sanglants dans le ventre de leur bête. En 10 minutes, ils furent sur le lieu de la scène. Mais les assassins, avertis par le bruit de leur course, avait eu le temps de prendre la fuite, il ne restait plus sur le verre de la route que le cadavre inanimé du Breton. Horace sauta aussitôt à bas de son cheval, détacha sa trousse de la selle et s'avança rapidement vers la victime. Son chapeau gisait loin de lui, sa ceinture de cuir avait disparu, une large blessure ouvrait sa poitrine. Octave était descendu de son cheval, comme son compagnon, avait attaché les deux bêtes à la haie du chemin, et plein d'anxiété, il s'était rapproché d'Horace, qui déjà tenait la main du blessé. « Il n'est pas mort, au moins ? » demanda-t-il vivement à voix basse. « Heureusement, » répondit Horace. « La blessure n'est donc pas mortelle ? Non, non, non. Oh, je respire. » « Ah, oh, ne nous flattons pas trop cependant, mon ami, » poursuivit le jeune médecin. « Ceci n'est point seulement un vol ordinaire, croyez-moi. Il y a là quelque atroce et épouvantable vengeance. Mais qui peut vous faire supposer, mais à la nature de la blessure même ? Mais comment ? Mais regardez-vous-même. » En ce moment, la lune venait de se dégager des quelques nuages qui interceptaient les rayons, et grâce à sa clarté douteuse, Octave put examiner l'état de la victime. Et par un hasard providentiel, poursuivit Horace, en découvrant la poitrine du Breton avec le même sang-froid qu'il se fût cru encore professant l'anatomie dans un des hôpitaux de Paris, par un hasard providentiel, le couteau a porté sur une côte et s'y est arrêté. Mais il est facile de voir avec quelle vigueur, disons avec quelle haine, le coup a été porté. Dans une attaque ordinaire, l'assassin se fût contenté de mettre son adversaire hors de combat. Et ici, il a choisi sa place. Et je dirais plus, je gagerais que la victime a été frappée après le vol. Ben, je vous avoue que je ne comprends pas, objecta Octave. Vous allez comprendre, repartit Horace. Il y a eu lutte d'abord, c'est évident. Voici les vêtements déchirés, le linge froissé, le chapeau lancé au loin, tous indices certains d'un combat acharné, lequel a dû se terminer par la chute de notre Breton. Il avait affaire à trois adversaires, nous les avons vus, il a dû succomber. Et remarquez ceci, Octave, c'est que cet homme n'a pas reçu durant le combat la moindre égratignure. Qu'il était d'ailleurs désarmé, puisque nous ne retrouvons plus son bâton. Et qu'enfin, lorsqu'il est tombé, les trois voleurs étaient maîtres de lui et qu'il n'avait aucun intérêt à commettre un meurtre désormais inutile. À moins cependant que l'un des assassins ne fût connu de la victime, dit Octave. Voilà la vérité, ajouta vivement Horace, vous l'avez trouvée. Oui, pendant la lutte, le malheureux aura prononcé un mot, un nom peut-être. Ce nom était celui d'un des assassins, et cela suffit. Quand il est tombé, il était déjà condamné. On l'a assassiné à froid. Et voilà une terrible histoire. Bon, dit Horace, il en sera quitte pour quelques milliers de francs de moins. Et sans ajouter une parole de plus, le jeune médecin se mit en devoir de panser la plaie du Breton, qui déjà d'ailleurs commençait à revenir de son évanouissement. C'était, il faut le dire, une scène profondément saisissante, surtout à l'heure et dans le lieu où elle se passait. Le paysage qui les entourait avait un aspect particulièrement triste. Quelques champs sablonneux où poussait une végétation sans force, çà et là de frêles bouquets de bouleaux brûlés par les vents d'ouest, partout une campagne nue et sans charme, enfin une certaine harmonie monotone et désolée qui se composait du bruit des vagues sur les falaises prochaines ou des plaintes du vent de mer dans les genêts. Les deux jeunes gens s'étaient tus, en proie à mille sentiments contraires, et penchés avidement sur le patient, Ils épiaient chacun de ses mouvements, attendant avec une anxiété mortelle qu'il revînt à lui. Le Breton ne se fit pas longtemps d'attendre. Il agita d'abord ses deux bras comme au sortir d'un long sommeil, passa à plusieurs reprises sa main sur son front et dans ses cheveux, et promena enfin son regard effaré autour de lui. « Où suis-je ? » demanda-t-il d'une voix faible. « Près de deux amis, répondit Horace, et surtout près d'un médecin que Dieu avait envoyé là pour vous sauver. Mais que s'est-il donc passé ? » ajouta encore le vieux Breton qui ne se rappelait pas. Puis passant de nouveau sa main sur ses tempes glacées, il chercha à fixer ses esprits. Son regard examina une à une les touffes de genêts qui ornaient les revers de la route, les chevaux attachés à la haie, Octave, Horace, enfin, tout ce qui l'entourait. Et quand il le reporta sur lui-même, il s'arrêta et laissa échapper un mouvement d'effroi en apercevant sa propre blessure. « Oh, du sang ! » s'écria-t-il, mais cette fois d'une voix ferme et qui ne tremblait plus. « Du sang, oui, je me rappelle, tout à l'heure, ici, Éric, Éric le mendiant, le misérable. C'est lui, messieurs, c'est lui, il voulait m'assassiner. » « Que vous disais-je ? » fit Horace à l'oreille d'Octave. « Silence ! » interrompit ce dernier. Depuis quelques secondes, en effet, Octave semblait s'être transformé. La voix du Breton, ce nom d'Éric qu'il avait jeté au milieu de sa phrase, cet éclair sauvage qui jaillissait de ses yeux, toutes ces particularités insignifiantes ou naturelles en apparence l'avaient profondément agité. Et maintenant, pâle, ému, respirant à peine, il attendait, suspendu aux lèvres du patient, qu'un mot vint encore qui fixa ses irrésolutions. Mais le Breton paraissait s'être calmé. Il avait saisi la main d'Horace et la serrait dans les siennes avec effusion. « Vous l'avez dit, monsieur, » poursuivit-il d'une voix pleine de larmes, « c'est Dieu qui vous a envoyé à mon secours, car ma mort eût été un grand malheur, savez-vous bien ? Non, pas pour moi, qui n'ai plus grand temps à vivre sans doute, mais pour une pauvre enfant qui se serait trouvée seule au monde et qui serait morte dans l'isolement et le désespoir. « Mais vous avez une fille ? Un ange, monsieur ! Et c'est une grande bonté de Dieu d'avoir détourné le couteau de ce misérable, car à l'heure qu'il est, Marguerite serait perdue. »« Marguerite ! » s'écria Octave, qui ne pouvait plus se contenir, et se précipita vers Tanguy, dont il prit les mains. « Vous la connaissez ? » fit ce dernier en retirant ses mains par un mouvement de défiance. « Mais je suis Octave, Tanguy, Octave Kellnor, ne me reconnaissez-vous pas ?» Le vieux Tanguy se tut, regarda un moment Octave, qui se tenait debout devant lui, haletant et perdu, attendant une réponse, et remua tristement la tête. « Ah oui, vous êtes Octave, » dit-il après un moment de silence. Oh, je vous reconnais bien maintenant. Sans le vouloir, sans doute, monsieur, c'est vous qui avez tiré sur nous tous les malheurs que nous déplorons. Marguerite est maintenant perdue pour vous, comme elle est perdue pour le monde. Mais que dites-vous? Oh, je dis, monsieur Octave, que vous êtes un gentilhomme et que j'attends de votre honneur que vous n'irez pas plus loin sur cette route. Quand je vous aurai appris que Marguerite est à deux pas d'ici. Mais je l'aime.
C'est un aveu que vous m'avez déjà fait, jeune homme. Et aujourd'hui, comme il y a 2 ans, cet aveu le repousse. Non, non, c'est de la cruauté. Non, de l'humanité, monsieur. Mais comment? Si vous n'avez pas su respecter la guerre à l'innocent de Marguerite, j'espère qu'aujourd'hui, du moins, vous saurez respecter sa folie. Marguerite folle? S'écria Octave, qui fut obligé de se retenir au bras d'Horace pour ne pas tomber.